Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 27 août 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République centrafricaine, affrontement meurtrier pendant le week-end entre groupes armés à Bria.
Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa appelle à tourner la page des élections lors de sa prestation de serment.
La Namibie va imiter l'Afrique du Sud en engageant une réforme agraire qui autorisera les expropriations.
Ici aux États-Unis, hommage des Américains au sénateur républicain John McCain, décédé samedi après 13 mois de lutte contre un cancer du cerveau.
États-Unis toujours, 3 morts dans une fusillade de masse hier en Floride.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Des affrontements meurtriers ont opposé ce week-end des groupes armés à Bria, en Centrafrique, a indiqué la MINUSCA. Selon des témoins, ces heurts ont fait au moins 4 morts et plusieurs blessés, un bilan non confirmé par la MINUSCA, Jacques Aristide.
Il y a eu des affrontements entre les anti-Balaka et le FPRC avec des pertes dans les deux camps, a déclaré le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Montero, précisant que les forces de sécurité centrafricaines et la police onusienne ont pris des mesures de sécurité. Les combats ont cessé dimanche après-midi, mais des tirs sporadiques étaient toujours entendus dans la soirée. Le FPRC a reçu le soutien d'un autre groupe de l'ex-Séléka, l'Unité pour la Centrafrique, lors de ces affrontements qui auraient pour origine un règlement de compte à propos du vol d'une moto. Depuis 2013, la quasi-totalité du territoire de la Centrafrique vit sous la coupe de milices et groupes armés. Aujourd'hui, groupes armés issus de la Séléka et milices anti-Balaka s'affrontent pour le contrôle des ressources dans ce pays de 4,5 millions d'habitants, classés parmi les plus pauvres au monde, mais riches en diamants, or et uranium.
Au Zimbabwe, le président élu Emmerson Mnangagwa a prêté serment dimanche en appelant ses compatriotes à tourner la page des élections jugées frauduleuses par l'opposition et à se mettre au travail pour redresser tous ensemble l'économie en ruine. En signe d'apaisement, M. Mnangagwa a profité de son discours d'investiture pour annoncer une enquête sur la répression meurtrière à 6 yeux inacceptable de la manifestation post-électorale du 1er août qui a fait 6 morts. Voici le nouveau Zimbabwe, l'aube d'une deuxième république du Zimbabwe, a lancé le président zimbabwéen.
La Namibie va imiter l'Afrique du Sud en engageant une réforme agraire qui autorisera les expropriations afin de corriger les inégalités foncières héritées de son époque coloniale. C'est ce qu'a annoncé le président Hage Geingob. Nathalie Barge.
La Namibie tiendra en octobre une conférence nationale sur la terre, a déclaré Hage Geingob lors d'une cérémonie commémorant les héros du pays. La conférence doit notamment examiner la politique de redistribution sur la base du volontariat, les demandes de restitution des terres ancestrales et l'expropriation avec une juste indemnisation. Depuis son indépendance en 1990, la Namibie a engagé une politique de transfert des terres sur la base du volontariat des propriétaires qui n'a eu que peu d'effet. Il y a 2 ans, les autorités avaient indiqué que la quasi-totalité des terres agricoles était encore détenue par des étrangers. Monsieur Geingob a toutefois rappelé son refus catégorique des évictions forcées. Son annonce intervient alors qu'un projet de réforme agraire suscite de vives tensions en Afrique du Sud, où le gouvernement veut autoriser les expropriations sans indemnisation.
Le témoignage d'une adolescente marocaine qui affirme avoir été kidnappée, séquestrée, violée et torturée par un groupe d'hommes, a suscité une importante mobilisation sur les réseaux sociaux. Sur la vidéo, Khadija Okaru, 17 ans, affirme avoir été enlevée il y a 3 mois devant chez sa tante à Key Ben Saleh par des garçons connus pour appartenir à une bande dangereuse. 12 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire, selon l'Association marocaine des droits de l'homme.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, les Américains ont commencé dimanche à rendre hommage au sénateur républicain John McCain, décédé à l'âge de 81 ans samedi, après 13 mois de lutte contre un cancer du cerveau. Une série de cérémonies est prévue dans l'Arizona et ici à Washington. Vendredi, M. McCain sera le 13e sénateur dont le cercueil sera présenté au public dans la rotonde du Congrès, un honneur réservé aux grands personnages de l'histoire des États-Unis. Des funérailles nationales auront ensuite lieu samedi à la Grande Cathédrale de Washington, où les anciens présidents George W. Bush et Barack Obama devraient prononcer, à sa demande, des oraisons funèbres. M. McCain sera ensuite enterré dans le cimetière de l'Académie navale d'Annapolis, dans le Maryland, où il a suivi sa formation de pilote de la marine.
États-Unis toujours, fusillade de masse hier lors d'un tournoi de jeux vidéo à Jacksonville en Floride. Selon la police, il y a eu 3 morts, dont le tireur, un blanc de 24 ans du Maryland qui s'est suicidé. On déplore aussi 9 blessés. Les précisions de Jacques Aristide.
Les tirs se sont produits lors d'un tournoi du jeu vidéo Madden NFL 19, une référence pour le football américain. Cette compétition se déroulait dans un bar de la zone de Jacksonville Landing. Le tournoi était une phase éliminatoire et était suivi en direct sur Internet. L'on peut entendre les tirs dans un extrait vidéo de cette retransmission. La police a lancé un appel à témoins pour obtenir d'autres images de l'attaque. L'équipe Complexity Gaming a indiqué que son joueur avait réussi à s'échapper dans la rue et à se réfugier dans un club de sport. Le FBI est intervenu, a indiqué le sénateur Marco Rubio. La Floride a été marquée par plusieurs fusillades ces dernières années. En juin 2016, un homme a tué 49 personnes dans un club gay d'Orlando. Et le 14 février dernier, un jeune de 19 ans a ouvert le feu dans un lycée de Parkland, tuant 17 personnes avant d'être arrêté.
Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé hier que le point de passage d'Erez, dans le nord de la bande de Gaza, allait rouvrir ce lundi, une semaine après sa fermeture par Israël. Le point d'Erez, seul passage pour les personnes entre la bande de Gaza et Israël. La bande de Gaza avait été fermée le 19 août suite à la poursuite de manifestations violentes le long de la frontière, selon les autorités israéliennes.
Contrôlée par le Hamas, l'enclave palestinienne est le théâtre de manifestations depuis le 30 mars le long de la frontière avec Israël pour la levée du blocus et le droit au retour des Palestiniens qui ont été chassés ou ont fui de leurs terres à la création d'Israël en 1948. Au moins 172 habitants de Gaza ont été tués depuis le mois de mars. Un soldat israélien a également été tué.
Premières audiences d'une âpre bataille judiciaire entre Téhéran et Washington, aujourd'hui devant la Cour internationale de justice. On s'attend à ce que l'Iran plaide pour une levée des nouvelles sanctions américaines imposées suite au retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien en mai dernier. Dans une procédure engagée en juillet, l'Iran appelle les 15 juges permanents de la Cour, organe judiciaire principal de l'ONU, à stopper la réimposition de ces sanctions annoncées par le président Donald Trump il y a 3 semaines. Selon les experts, les États-Unis devraient plaider l'incompétence de la Cour dans cette affaire.
En Birmanie, le verdict prévu initialement ce lundi dans le procès des deux journalistes de l'agence Reuters, poursuivis pour avoir violé la loi sur les secrets d'État, a été reporté au 13 septembre. C'est ce qu'a annoncé la justice birmane, invoquant l'état de santé du juge en charge de l'affaire. Hua Lon, 32 ans, et Kyo Soo, 28 ans, sont accusés d'avoir détenu des documents confidentiels relatifs aux opérations des forces de sécurité dans l'État Rakhine, une région située dans le nord-ouest du pays, théâtre du drame Rohingya.
Le pape François a confié hier dans l'avion qui le ramenait de Dublin après une visite de 2 jours en Irlande qu'il a tant souffert en parlant samedi avec 8 victimes irlandaises d'abus sexuels. Le pape s'est entretenu pendant 1h30 avec ces victimes d'abus commis dans le passé par des membres du clergé, des religieux et des personnes au sein d'institutions catholiques. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
La Banque africaine de développement organise le 17 septembre à Abidjan une conférence pour promouvoir les connaissances des Africains et de l'Afrique. Cette conférence vise à soutenir le dialogue et la collaboration entre la Banque et ses États membres sur l'exploitation et la diffusion des connaissances et à contribuer à l'élaboration de politiques participatives, a indiqué la BAD. La Banque islamique de développement s'est engagée à financer le projet de renforcement du système de transfusion sanguine du Cameroun pour plus de 8,7 milliards de francs CFA. Le montant permettra notamment la construction de 5 centres et la création d'un système de recrutement de donneurs volontaires. Les poches de sang collectées couvrent à peine 23% des besoins annuels, selon le ministère de la Santé. Les pays de la communauté d'Afrique de l'Est pourraient revoir à la hausse leur droit à l'importation sur les produits finis afin de protéger les industries locales, indiquait le ministre kényan de l'Industrie, Peter Munya. Le tarif extérieur commun actuellement prévoit des taxes douanières de 0% sur les matières premières, 10% sur les produits semi-finis et 25% sur les produits finis.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football qualification pour la CAN des moins de 17 ans, l'Ouganda représentera la zone CECAFA en Tanzanie.
Les CRAN cadets joueront pour la première fois au championnat d'Afrique des moins de 17 ans. Ils ont battu hier l'Éthiopie 3-1 lors de la finale de la zone CECAFA qui s'est déroulée au stade national de la ville côtière de Dar es Salaam. L'Ouganda se joint alors à la Tanzanie, pays hôte de cette CAN, dont la phase finale aura lieu en 2019.
Dans la zone UNAF, le tournoi de qualification en est à sa deuxième journée et le Maroc prend seul la première place.
Après leur démonstration de la première journée contre l'Algérie, les Lions cadets de l'Atlas se sont échappés seuls en tête en enchaînant 1-0 contre la Libye. L'Algérie prend la deuxième place devant la Tunisie. Après leur déconvenue initiale, les Fenecs se sont relancés en battant 2-0 les Tunisiens. Prochaine journée, demain mardi, avec deux matchs décisifs, Tunisie-Maroc et Algérie-Libye. Précisons que seule la première place est qualificative pour la phase finale qui aura lieu en 2019 du côté de la Tanzanie.
La deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 est prévue dans 2 semaines. Florent Ibenge va finalement dévoiler sa liste ce soir.
Oui, ça devait être publié le samedi passé, mais la Fédération congolaise a indiqué qu'il faudra attendre 48 heures supplémentaires jusqu'à ce lundi. L'instance a expliqué que ce report permettra aux sélectionneurs de suivre certains de ces léopards repris dans ses choix ce week-end en match des championnats européens. Pour la deuxième journée de ces éliminatoires, la RD Congo jouera le 7 septembre prochain contre le Libéria.
En attendant de connaître la liste du Bénin, Élisée, la fédération a un nouveau président.
Effectivement, Idrissa, il a pour nom Mathurin de Chacus, seul candidat en lice. Le président des Dragons de Lomé a été logiquement élu au siège de l'instance à Porte-Novo avec sa liste Nouveau Départ. 55 voix pour, 18 contre, une abstention, une voix nulle. Et il succède ainsi à Andjourin Moucharafo. On l'écoute juste après les élections.
Je voudrais placer mon mandat sous le signe d'un nouveau départ pour le football béninois et le rassemblement de la famille football. Nous devons redonner à ce sport ses lettres de noblesse. Après des années de crise, il est important de partir sur de nouvelles bases afin d'assurer à ce sport des lendemains meilleurs. Il s'agit des bases d'une gouvernance fédérale qui place l'intérêt général au-dessus de toute autre considération partisane. Nous avons manqué de grands rendez-vous, tant sur le plan national qu'international. Nous avons donc chuté. Je voudrais placer également mon mandat sous le signe de la transparence et de la crédibilité de cette institution à travers une gestion rigoureuse et résolument axée sur les résultats et l'obligation de rendre compte. C'est l'heure de promouvoir les talents en mettant l'accent sur la formation et les différents championnats qui constituent de véritables viviers pour la détection des grands footballeurs de demain.
À l'instant même, Mathurin de Chacus, le nouveau président de la Fédération béninoise de football, son premier challenge reste l'organisation de la Ligue 1 de football qui doit normalement démarrer à la fin de ce mois.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, à l'appel de Soumaïla Cissé, 50 000 personnes, selon les organisateurs, étaient dans les rues de Bamako pour contester les résultats de la présidentielle, du second tour de la présidentielle du 12 août. Des résultats qui donnent le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, vainqueur. Soumaïla Cissé et ses alliés et partisans ont aussi marché dans d'autres grandes villes du Mali. De Bamako, Kassim Traoré.
Un dimanche calme à Bamako, calme aussi dans les QG des campagnes de Ibrahim Boubacar Keïta, où les activités sont au ralenti depuis la victoire de leur champion, Amadoune Ibrahim Maï, membre du directoire des campagnes.
Nous savons tous les efforts inlassables que le gouvernement a pu faire pour pouvoir organiser les élections. Et je pense que, en écoutant les observateurs internationaux qui ont supervisé ces élections, ils ont tous accrédité des élections vraiment de bonnes élections. Donc, l'appel que je lance à mes camarades politiques de l'opposition, c'est qu'ils viennent avec nous pour que vraiment nous puissions travailler pour le Mali et pour le bonheur des Maliens.
Du côté de l'opposition, c'était le rappel des militants et des sympathisants pour une énième marche contre la fraude, marche au cours de laquelle le chroniqueur Aras Bach indexe la communauté internationale.
Ibeka est le président de la communauté internationale, pas du Mali. Et quand la communauté internationale vient dire qu'ils n'ont rien constaté de fraude, de bourreau, et cautionner ce qui a été avalisé par Manassa, la communauté internationale a laissé une image d'une communauté complice d'une élection truquée fraudée. Les observateurs de la CEDEAO ont manqué à leur devoir de crédibilité. Les observateurs de l'Union européenne ont privilégié les intérêts européens au respect du droit de liberté de la démocratie malienne.
Pour les partisans d'Ibrahim Boubacar Keïta, il n'y a que les urnes pour accéder au pouvoir. Ousmane Kolandaou, membre du directoire de campagne d'Ibrahim Boubacar Keïta.
J'appelle tout un chacun à savoir et raison garder. Au Mali, aujourd'hui, depuis mars 91, on ne peut accéder au pouvoir que par les urnes. Et nous croyons aujourd'hui que toutes les procédures légales ont été bouclées. Nous croyons qu'au sens républicain de l'opposition, pour dire que chacun de nous se bat pour construire le pays. Et nous souhaitons vraiment qu'il y ait le bon sens d'accepter ces résultats et qu'ensemble, nous construisons le pays.
Devant 50 000 personnes réunis sur le boulevard de l'indépendance, Soumaïla Cissé a fait savoir que les marches de l'opposition sont pacifiques.
Le Mali que nous voulons, c'est un Mali sans violence. Nous n'avons pas touché à une branche d'arbre. Nous n'avons pas fait tomber une feuille, ce que certains croyaient. On m'a envoyé des mamans de 90 ans. J'ai dit, chère maman, il n'y aura rien. Je connais les jeunes qui sont avec moi. Remercier la diaspora qui a marché. Remercier les régions qui ont marché. Remercier Nioro. Mais je faillirai si je ne remercie pas ici. À votre nom à tous, Bouyé, le shérif de Nioro.
Silencieux depuis la proclamation des résultats, le candidat Mohamed Ali Bachili trouve que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est nul.
Si on applique la loi et si on l'applique dans toute sa rigueur, eh bien, ce n'est pas possible, cette proclamation des résultats est nulle et non avenue. Manassa est considéré comme ayant démissionné d'office. La Cour devrait constater cette démission en se fondant sur la violation de l'obligation qu'elle avait au terme de l'article 8, in fine, de cette loi-là.
Comme à Bamako, plusieurs marches ont été organisées contre la fraude électorale dans certaines capitales régionales et cercles du pays. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En République démocratique du Congo, 6 candidats ont été provisoirement écartés par la Commission électorale nationale indépendante de la course à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Parmi eux, l'opposant Jean-Pierre Bemba. Sa condamnation par la Cour pénale internationale pour subornation de témoins est la raison évoquée par la CENI pour déclarer sa candidature irrecevable. Comme lui, d'autres candidats de l'opposition qui ont également été écartés accusent la coalition au pouvoir d'instrumentaliser la CENI. Reportage de Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
sont déclarés non recevables. À l'élection du président de la République, Ifoku Butampunga Marie-Josée, parti politique ANC Badibanga Tita Sami, regroupement politique progressiste Moka Ngolo Bati Jean-Paul, regroupement politique MB Muzito Fumuchi Adolphe, regroupement politique IREP Kizenga Antoine, regroupement politique Palou et Allié, Mbemba Ngombo Jean-Pierre, parti politique MLC.
Ce sont les 6 candidats présidents de la République écartés de la course par la Commission électorale nationale indépendante. La très attendue annonce dans la nuit de vendredi à samedi de la liste provisoire des candidats présidents de la République a fait l'effet d'une bombe dans certains quartiers généraux des partis et regroupements politiques. L'opposition à travers ses candidats présidents de la République a aussitôt réagi. À travers une communication lue notamment par Martin Fayoulou, elle a clairement accusé le pouvoir d'être à la base de la mise à l'écart des candidats de l'opposition, notamment Jean-Pierre Bemba, et menacé par la même occasion Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante.
L'opposition politique congolaise est ce jour en possession des éléments probants, attestant que le pouvoir en place par l'entremise du ministre de la Justice et les cadres de la majorité au pouvoir ont donné des injonctions à la CENI aux fins d'exclure plusieurs candidats de l'opposition du processus électoral. Par ces faits, le régime en place manifeste une nouvelle fois sa détermination à confisquer le processus électoral en rendant encore plus inaccessible son inclusivité et son caractère apaisé. L'opposition politique met en garde Monsieur Nanga, qui maintient ainsi la CENI à la solde du pouvoir et lui signifie qu'il subira seul les graves conséquences de ses actes.
S'en sont suivis tout le week-end de nombreuses déclarations des candidats et partis politiques concernés, notamment Adolphe Muzito, pour qui le camp du président Kabila élimine les opposants pour se frayer un chemin vers une victoire facile. Les Kinois interrogés sont, eux, partagés entre l'instrumentalisation de la CENI par la coalition au pouvoir évoquée par les opposants et la voie de recours à suivre par les candidats invalidés.
Ça montre une fois de plus l'instrumentalisation de la CENI par le régime en place. Pour moi, c'est une entorse déjà au processus électoral. C'est comme si la majorité veulent se choisir ces candidats.
De mon point de vue, je pense qu'il était prévisible que certains dossiers qui avaient des litiges soient invalidés. Mais il y a une grande étape qui est prévue dans le calendrier publié par la CENI. La voie de recours. Les opposants ne doivent pas perdre l'espoir parce qu'il y a la voie de recours qui est prévue dans les calendriers. L'étape qui suit, c'est l'examen des voies de recours à la Cour constitutionnelle. Attendons voir et faisons confiance à la justice.
Le suspense est donc maintenu jusqu'au 19 septembre prochain, jour de la publication des listes définitives. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC. Sur 97.7 FM.
Le chanvre indien fait des ravages chez les jeunes sénégalais. Dans la banlieue de Dakar, les jeunes et adolescents tombent souvent dans la délinquance juvénile à cause notamment de la pauvreté. Agression, drogue, ces jeunes touchent à tout. Le cannabis, communément appelé chanvre indien, est la drogue la plus accessible et la plus utilisée. Reportage de Sedina Abagay.
Nous sommes au populaire quartier de Khayale, dans la banlieue de Dakar. Dans le calme plat de la nuit, un groupe de jeunes se partage un joint de chanvre indien enveloppé dans un bout de papier. Pour eux, ce moment est unique. Sous couvert de l'anonymat, ils se confessent au micro de VOA Afrique.
Fumer du chanvre indien me permet de me libérer de tous mes soucis pendant un certain temps. J'ai commencé à prendre ça au collège parce qu'il y avait un grand qui m'en vendait par petite quantité et finalement je m'y suis habitué. Et avec mes amis, on se cotise pour avoir un joint à nous partager. On prend notre dose et on ne dérange personne.
Pour avoir leur dose, ces adolescents se tournent vers leur fournisseur, lui aussi relativement jeune. Il explique les détails de son business.
Je suis passé par la même galère que ces jeunes avant de devenir revendeur. Il y avait nos grands qui fumaient du chanvre juste derrière notre école. Et en les fréquentant, on a chopé le virus. Et depuis, on est dans le business du chanvre. Au Sénégal, il y a de rares personnes qui agriculture du chanvre indien. La plupart du temps, on s'approvisionne depuis la Gambie, le Mali et même la Casamance.
Malgré ces ravages, le chanvre indien est plus que jamais utilisé par les adolescents. La plupart du temps, ils le font au péril de leur vie.
Je suis une fois tombé malade à cause du chanvre indien et je toussais tout le temps. Ces toux étaient accompagnés de sang et les gens me suppliaient d'arrêter l'usage du chanvre indien.
Le docteur Idriss Abba, psychiatre addictologue et coordonnateur technique du centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar, affirme que les conséquences peuvent parfois être plus graves.
Beaucoup de jeunes sont deviennent du fait de la consommation incontrôlée, deviennent dépendants. L'autre conséquence aussi, c'est d'autres problèmes sur le plan médical, des problèmes bronchopulmonaires, des problèmes de comportement aussi, parce que ça entraîne des troubles du comportement, mais aussi à la longue aussi, ça impacte aussi sur les fonctions cognitives. Donc des troubles psychiatriques peuvent apparaître sur le plan médical, mais aussi sur les conséquences sur le plan social, parce que aussi là où il y a consommation de drogue, il y a trafic, et là où il y a trafic, il y a aussi violence.
Au Sénégal, le centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar est la seule structure capable de venir en aide à ces jeunes qui utilisent la drogue. Le docteur Idriss Abba est le coordonnateur technique du centre. Il assure que des mécanismes seront mis en place pour étendre la prise en charge.
Au niveau des centres de proximité, que ce soit au niveau des districts sanitaires, que ce soit au niveau des hôpitaux régionaux, former le personnel local de capacité pour qu'il puisse prendre en charge les problèmes liés à la consommation de drogue, au même titre que les autres problèmes de santé. Parce que nous sommes des médecins, on ne peut pas former partout et mettre partout des spécialistes, mais on peut aussi capaciter les gens. Et ça aussi, ça participe de la lutte contre la discrimination.
Au Sénégal, la prise en charge des jeunes victimes d'addiction est problématique. Il n'existe qu'une seule structure spécialisée dans la lutte contre les addictions. La consommation de drogue, plus particulièrement celle du chanvre indien, demeure importante chez les adolescents. Loin des structures de prise en charge et sans contrôle parental, ces jeunes demeurent prisonniers de leur addiction. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends seront courtes le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Elena, Elena, yeah. Hey. Hey. Dis-moi ma belle, hey. Dis-moi ma belle si tu es bien réelle et réelle. Jusqu'à présent, faut dire tu manquais à l'appel. Désormais, j'ai juré, je t'ai bien repéré. Pardon, chérie, faut pas me laisser au haï. Sans rien demander, moi je vais tout te donner. Ah, ah, ah.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assédoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.